Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h41, dans un instant, le petit déjeuner de l'actu. Et Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, Éric Revel, vos appels 0826-300-300. Mais en attendant, qu'est-ce qui fait parler ce matin avec la revue de presse? C'est Benjamin Clèche.
Oui, une image à la une des journaux, celle de footballeur, un genou à terre, le poing levé sur la pelouse du Parc des Princes hier soir, hein, Benjamin.
Oui, avec Kylian Mbappé, qu'on reconnaît notamment parmi ces footballeurs. Alors, pour le Parisien aujourd'hui en France, c'est la révolte des joueurs, ceux du PSG et du Başakşehir à Istanbul. Un geste symbolique de leur part pour dire non une nouvelle fois au racisme, et ce au lendemain d'un match qu'ils avaient eux-mêmes interrompu après des propos racistes d'un arbitre. Midi Libre veut y voir un véritable électrochoc pour le monde du football, tandis que l'équipe de son côté retient la solidarité des deux clubs avec ce mot « ensemble » écrit en gros. Le quotidien sportif raconte ces 24 heures au cours desquelles joueurs et staff des deux formations fait entendre leur voix contre le racisme. Côté sport, l'équipe rappelle que ce match de Ligue des Champions a disputé donc sur deux jours s'est conclu par une large victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 1. Paris qui termine donc, grâce à ça, eh bien, en tête de son groupe pour terminer cette phase de poule.
Oui, on y reviendra d'ailleurs peut-être dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure avec Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy et Éric Revel. Autre sujet, un an après, l'origine du Covid-19 reste un mystère. Ça, c'est la une du Figaro hein, ce matin.
Et oui, le blocage des frontières chinoises empêche toujours les scientifiques d'enquêter sur les réservoirs animaux qui ont transmis le coronavirus à l'homme. Le pangolin n'est plus le principal suspect, nous le rappelle en tout cas le Figaro. Il soit même totalement disculpé. Au-delà de ça, la Chine refuse toujours aux scientifiques l'accès à cette ville d'Wuhan et à son marché aux animaux vivants. Un blocage qui entrave l'enquête en cours et qui permet à Pékin d'insister sur l'idée controversée que le virus n'est pas apparu sur son sol, mais à l'extérieur de ses frontières. Une théorie bien pratique qui, nous dit le Figaro, éclipse la mauvaise gestion du début de l'épidémie par le régime.
Oui, c'est vrai. Le Covid également à la une de vos journaux en région et notamment l'Indépendant.
Oui, avec ce titre, le test pour Noël n'est pas un laissez-passer. C'est le chef du service maladies infectieuses du CHU de Perpignan qui nous le dit, à savoir Hugues Aumettre. Se tester, oui, mais ne pas respecter les gestes barrières, non, tout simplement parce qu'on peut avoir un résultat, par exemple, négatif tout en ayant été contaminé entre-temps. Covid-19, la jeunesse en souffrance, ça c'est le dossier qui est à la une de la Dépêche du Midi. Écoliers contraints de porter le masque, adolescents interdits de sortie ou étudiants privés d'université. L'épidémie pèse lourd sur la jeunesse, creuse les inégalités, tandis que les experts s'alarment sur les conséquences psychologiques de cette crise.
Oui, c'est ça. Et puis pendant ce temps, les professionnels de la montagne hein, qui affichent leur désarroi encore et toujours.
Oui, ils continuent de se mobiliser dans l'attente ce jeudi de la décision du Conseil d'État sur les remontées mécaniques. À Lens, hier, 300 personnes se sont retrouvées pour protester contre la fermeture des stations. C'est à la une ce matin de l'éclair des Pyrénées. Puis il y a le ski de fond, lui qui commence, qui a le droit de citer finalement. C'est à la une de la Nouvelle République des Pyrénées avec ces espaces nordiques prêts à fondre puisque les équipes s'activent dans certaines stations. Les skieurs locaux font leur retour depuis hier des domaines nordiques qui profitent aussi bien du Grand Blanc qui est de retour que du feu vert des autorités.
Oui, ça c'est vrai. On poursuit notre Tour de France des journaux ce matin avec Pascal Ratineau. Il est rédacteur en chef du Populaire du Centre. Il est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour.
En une notamment, une nouvelle école vétérinaire à Limoges, hein, c'est ça?
Oui, en tout cas, c'est un souhait politique, puisque oui. C'est porté, le dossier est porté par Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, le souhait d'une école vétérinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a que 4 en France, qu'environ 180 diplômes sont distribués par an, mais qu'il y a une véritable déprise de ce métier dans les régions, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, oui. Qui, je le rappelle, est la première région européenne agricole. L'idée, ça serait d'installer ça à Limoges, puisqu'on est au cœur d'un territoire d'élevage et notamment de la Limousine, et ça pourrait être installé au pôle de Dano, qui est le pôle d'excellence de la Limousine, notamment sur l'insémination artificielle.
Quand est-ce que c'est prévu la décision, et qu'est-ce qui pour l'instant pèse dans la balance d'un côté ou d'un autre ?
Alors, ce qui bloque pour l'instant, c'est le ministère de l'Agriculture qui doit donner son aval. Dans un premier temps, ce serait une cinquième année qui serait installée, oui. Mais Alain Rousset espère qu'on pourra faire son cursus de la première à la cinquième année, quitte à ouvrir une école privée qui serait financée en partie par la région en partie par l'État, pour que l'on puisse suivre l'ensemble de son cursus. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 47% des vétérinaires en France qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger.
Non, mais oui.
Comme il n'y a que 4 écoles. Ouais. Et que sur ces 47%, la moitié font, s'occupent d'animaux domestiques. Donc il y a de moins en moins de vétérinaires pour s'occuper des bêtes d'élevage, celles qu'on appelle les bêtes de rente.
Non mais c'est quand même assez incroyable, hein. Simplement donc 1 sur 2 grosso modo, un veto sur 2 qui est formé en France, et beaucoup, c'est vrai. Alors je me souviens d'une époque, ils allaient en Belgique, je crois qu'ils vont aussi dans les pays de l'Est.
Belgique et Roumanie, oui.
Merci, hein, bon dossier en tout cas dans le populaire du centre à lire sur ce projet d'une nouvelle école vétérinaire effectivement à Limoges. On a besoin de projets, je comprends pas que ça ne se débloque pas. Alors évidemment c'est probablement des raisons d'argent derrière.
On peut rappeler que les études de vétérinaire sont les plus difficiles. Hein. C'est incroyable le niveau qu'il faut, et on manque de vétérinaires, et vous savez pourquoi ? Parce qu'on parle toujours des policiers qui ont été supprimés au moment de la RGPP, la fameuse révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy, mais on a supprimé énormément de vétérinaires, et c'est très, très important sur le plan de la sécurité sanitaire en France. Ouais. On en a supprimé, et on en manque aussi des vétérinaires d'État qui garantissent la sécurité sanitaire.
À tous les niveaux, bien sûr, mais parce qu'on n'en forme pas assez. C'est exactement comme les médecins il y a quelques années.
Parce que c'est très dur.
Mais c'est pas que dur, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'écoles. On en a que 4.
Alors qu'il y a de plus en plus d'animaux domestiques.
Et donc la plupart sont obligés d'aller faire leurs études à l'étranger, comme on le disait avec Pascal Ratineau à l'instant, en Roumanie, en Belgique. Ça fait des années que ça dure. Il y a 40 ans, j'entendais déjà parler en fait de cette histoire avec beaucoup qui allaient se former en Belgique parce qu'en France, il n'y avait pas assez de place. C'est dingue. Bon, allez, on continue.
Bah oui, on continue avec vos appels ce matin, 0826-300-300, Françoise Degoy, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Et on vous attend au standard parce que visiblement, vous avez beaucoup de choses à dire.
Oui, on va y aller dans un instant, effectivement, au 0826-300-300. Bon, déjà, on va pas y passer non plus la matinée, mais quand même, sur cette histoire du PSG avant-hier et du racisme, des propos présumé en fait raciste. Là, je sais que vous n'êtes pas effectivement d'accord, que chacun a sa version en fait des faits. Vous, Elisabeth, vous dites que c'était pas du racisme en tant que tel, quoi.
Les faits, on est tous d'accord, je crois. Oui. Sur les faits, personne ne.
Non, mais c'est l'interprétation.
Ce qui s'est passé. Si vous voulez, moi, ce que je vois en fait, c'est que vous avez des antiracistes qui cherchent absolument. Ils ont besoin de racistes. Et là, en l'occurrence, que se passe-t-il ? Alors, je peux comprendre qu'au début, il y a une confusion à cause du mot négro.
Oui.
Ça est. Mais simplement, une heure après, on le sait, et 24 heures après, on a compris, il a simplement voulu désigner la personne, l'identifier, si vous voulez. Et je suis absolument scandalisée, vraiment, que tout le monde se serve de ça pour montrer à quel point il est génial et merveilleux. Même Erdogan. Et excusez-moi, les joueurs, moi je suis tout à fait d'accord que les cris des supporters, tout ça est absolument inqualifiable.
Ouais, ça, dans les stades. Ouais.
Mais les leçons de maintien de ces joueurs de foot qui ont mal à leur France pour Michel Zecler, mais qui n'ont jamais mal à leur France quand il y a 100 flics au tapis, si vous voulez, là, ils peuvent se les garder. J'en ai assez de ces gens qui donnent des leçons de morale, mais qui, franchement, je trouve que leur comportement n'est pas à la hauteur, et leur antiracisme est tout à fait sélectif.
Oui. Avant, Éric Revel, un mot, Françoise Lecoy.
D'abord, Eric. Sur Antoine Griezmann, qui a dit « j'ai mal à la France », Antoine Griezmann, c'est aussi c'est largement exprimé sur la décapitation, par exemple, de Samuel Paty. Il n'a pas fait que. Oui. Il n'est pas sélectif, Antoine Griezmann. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Elisabeth. Je pense qu'à un moment donné, ça prend cette proportion parce que je pense que les Noirs en ont marre tout simplement d'être essentialisés, d'être ramenés à leur couleur. Donc, c'est pour ça que il y a quelque chose désormais qui est insupportable. Et je pense que j'entends ce que vous dites. C'est vrai que c'est un peu marrant, enfin, un peu étrange de voir ces stars, mais il me semble quand même que, justement, c'est un geste très fort, parce qu'il faut en finir avec les cris de singe, les bananes. Moi, j'ai déjà été dans un match à Naples. Ben, c'est pas marrant, parce que hormis le fait qu'il y avait la légende Maradona, et ben, quand vous avez un joueur black, c'est insupportable.
Éric Revel.
Et sur Erdogan, on rappelle quand même, et là je suis d'accord avec vous, Elisabeth, que ce club appartient à Erdogan, que c'est une véritable machine à propagande erdoganienne, et j'ai été très étonné de voir les joueurs faire le signe sur la pelouse.
Ouais, non, mais ça c'est vrai, vous l'avez bien souligné tout à l'heure dans votre regard libre, Elisabeth Lévy, à 8h15. Picard. Eric Revel.
Oui, je voulais dire un mot sur les vétérinaires, si vous le permettez d'abord, oui, parce que c'est super important. Non, c'est très 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 important.
C'est vrai,
vous savez que 80-90% des épidémies, elles sont transmises par des animaux.
C'est vrai.
Mmh. Or, en France, dans le conseil scientifique, il n'y a aucun vétérinaire. En Chine, le patron du conseil scientifique chinois, qui essaie de conseiller le gouvernement de Pékin, c'est un vétérinaire. Donc, les vétérinaires, c'est super important, et beaucoup de vétérinaires regrette le fait qu'on ne les associe pas justement à la conduite de cette épidémie.
Alors ça c'est vrai, dès le début, non mais vous avez raison de le souligner, parce que dès le début, beaucoup ont dit chez les vétérinaires pourquoi on n'y est pas, etc. Ils ont voulu appartenir à ce conseil scientifique et il n'y en a pas eu. Et ça n'a pas été, entre guillemets, réparé en fait depuis. Hein. Non mais ça c'est vrai. Pour revenir sur le racisme.
Je vais peut-être avoir une position un peu médiane, mesdames, j'en suis désolé. Bon, moi je partage un peu le début de la vie d'Elisabeth, c'est-à-dire on en fait une montagne d'un truc qui est quand même pas, qui est quand même pas un acte de racisme majeur. En revanche, ce que je pense, c'est que ça fait tellement d'années, voire de décennies, que dans le football, un racisme parfois des plus violents s'exprime, des plus violents. Françoise le rappelait, en Italie, on balance des bananes, on fait des cris de singe à des joueurs qui sont noirs. Mmh. En fait, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase, je pense. Maintenant, pardon, mais Erdogan n'a pas de leçon à nous donner de défense des droits de l'homme ou des minorités, de grâce, je l'écarte. Et puis, ce qui me pose un problème, je vais vous dire, c'est... ce genou posé à terre, moi la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on va obliger dans tous les matchs de football les footballeurs à poser un genou à terre, et ceux qui refuseront de poser le genou à terre et de lever le poing, est-ce qu'on va pas les taxer de racisme? Vous voyez, on met le doigt dans un engrenage très périlleux. Mais pour moi, cette affaire, le noir qui est là-bas, c'est lui qui a fait ça. C'est une sorte de racisme ordinaire, mais c'est surtout une goutte qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que quand vous entendez Joseph Bell, l'ancien gardien de but, qui vous explique comment il a souffert tout seul d'un racisme terrible dans le monde du football, y compris parfois de la part de dirigeants et pas seulement de supporters.
Ça, c'est vrai.
Bon, il fallait
qu'il
se passe quelque chose. Maintenant, attendez, hein, c'est pas non plus le 14 juillet 1789, hein, ce qui s'est passé. Hein.
Mais quand même, c'est moi,
attendez,
je pense.
Je peux...
Oui,
Elisabeth.
Oui.
Non, mais moi, ce qui me frappe là-dedans, excusez-moi, je vais quand même citer le joueur Dembaba, hein, celui qui a pris la tête de la fronde antiraciste, c'est quand même quelqu'un qui a défendu Kémi Séba. Hein, François sait très bien qui c'est.
Bien sûr.
D'accord. Non, c'est pas seulement le CCIF, lui, c'est vraiment un antisémite affiché.
Affirmé, assumé. Assumé, non, voilà, mais assumé en plus. Assumé, Kémi
Séba. Donc, si vous voulez, les leçons d'antiracisme de monsieur Dembaba, excusez-moi, mais surtout ce qui me frappe là-dedans, et là, je voudrais vous interroger. En fait, ce qu'on reproche à cet arbitre, c'est d'avoir vu une différence. Or, quand les Noirs se définissent comme Noirs, si vous voulez, s'ils défendent la fierté noire, s'ils disent, regardez, comme en tant que Noirs, nous avons fait ceci et cela, et c'est tout à fait leur droit, je veux dire, j'ai eu cette discussion avec Rokeya Diallo, que j'aime beaucoup, par ailleurs, personnellement, même si je ne suis pas d'accord avec elle, donc c'est tout à fait leur droit. Mais quand ils disent, regardez, on est Noirs et regardez ce qu'on fait, c'est merveilleux, mais si quelqu'un juste pour l'identifier entre deux, en fait, c'est-à-dire parce que c'était le seul...
J'entends ce que tu dis, ce que vous dites, ce que tu dis, Elisabeth. Moi aussi, j'aime beaucoup Rokaya et je ne suis pas parfois d'accord avec elle. Mais il est normal que cette Black Pride, cette fierté noire, s'affiche parce que je crois que vraiment les Noirs sont arrivés à un point d'insupportabilité, justement, de cette essentialisation. Je pense que ça, vous pouvez complètement le comprendre et que les deux choses peuvent aller ensemble. C'est-à-dire afficher sa négritude. Il y a d'autres gens qui l'ont fait avant eux. Aimé Césaire, évidemment, et Saint-Gore, mais surtout Saint-Gore. Aimé Césaire, et puis surtout tous les poètes Glissant, etc. Édouard Glissant. Mais je veux dire qu'en parallèle, ils ont absolument le droit de dire nous ne voulons plus être définis comme ça. Oui, c'est deux choses.
Oui,
c'est avec votre esprit complexe. Il n'y en a pas une. Je pense que c'est absolument les deux faces de la même pièce.
Éric, un mot, et puis on passera en fait, au sujet suivant, juste après.
C'est essentiel. Vous prenez ce qui s'est passé avec Biden, vous avez vu, il a nommé un ancien général noir à la tête du Pentagone. Oui. Bien.
Oui. Quand
les médias français disent c'est un général noir, là c'est valorisant. Personne n'accusera personne de taxer ce général, non pas pour ses qualités militaires, mais par le fait qu'il est noir.
Bien sûr.
Or là, Or là, ça ne choque personne. Sauf que j'ai noté une évolution dans l'écriture de cette information, parce qu'au début, beaucoup de médias, regardez, ont mis un ancien général noir est nommé à la tête du Pentagone, et c'est devenu un Afro-Américain. Donc en fait, on est en train aussi, nous, de parfois, me semble-t-il, au prétexte de ne choquer personne,
c'est bien.
De trouver des mots qui ne correspondent plus à la réalité.
Ça correspond, Afro-Américain, ça correspond.
Attendez.
Oui, mais d'accord, Françoise, mais regardez.
En quoi ça vous heurte ?
Là, ça ne choquera personne, évidemment, qu'on dise un ancien général noir. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un ancien général.
C'est un ancien noir.
Ce que je veux dire, c'est que là, on utilise le mot noir, et c'est évidemment valorisant, comme si c'était exceptionnel qu'un noir prenne la tête du Pentagone. Vous voyez, c'est quand même absolument incroyable. On ne sait plus quoi écrire.
Oui, c'est vrai. Merci, Éric Revel, Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Vous revenez dans quelques minutes. On va continuer le petit déjeuner de l'actualité. Bien sûr, on reviendra notamment sur déconfinement ou pas le 15, bien sûr, décembre. C'est-à-dire mardi prochain. Et puis, vos réactions. Il y a Yvette qui est au 0826-300-300 dans un instant. Et vous, vous tous, vous voulez réagir à tous les sujets que vous entendez. N'hésitez pas.
Restez avec nous. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h03, merci d'être avec nous comme tous les matins. L'antenne est à vous, hein, 0826-300-300 pour débattre ce matin. Nous avons Yvette qui est en ligne avec nous et qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Yvette.
Bonjour. Bonjour à tous, pardon.
Oui.
Vous vouliez revenir sur quoi ce matin, Yvette ?
Je voulais revenir sur le truc des religions, parce que, à croire qu'en France, la religion qui prime, c'est la religion musulmane, puisqu'on dit que... Mais moi, je suis chrétienne, et en tant que telle, je voulais dire que moi, je mettais Dieu aussi à la première place. Parce qu'on a l'air de dire qu'il n'y a que les musulmans qui mettent Dieu à la première place. Non, je mets Dieu à la première
place. Avant la République, vous voulez dire ?
Avant la République, oui. C'est-à-dire que je rends à César ce qui est à César, comme il nous est stipulé dans les Écritures, parce que c'est normal, d'obéir au règlement intérieur d'un pays où on habite. Mm-hmm. Mais je suis citoyenne du monde. Hein. J'habite en France, oui. C'est un privilège d'ailleurs. Mais si on me parle, je mets ma foi en premier. Et quand j'entends des trucs, c'est vrai que je m'énerve des fois pour des sujets que je ne devrais pas, parce qu'on sait que pour quelqu'un qui est croyant, vous savez qu'il y a quand même 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, hein, plus d'un milliard de musulmans dans le monde, et toutes les religions confondues, on arrive à 5 à 6 milliards. Donc je pense que si on mettait la religion, et si on mettait vraiment Dieu à la première place, avec notre foi puissante, en travaillant les fruits de l'esprit, eh ben, on dit que Dieu est amour, donc... il y aurait que l'amour qui vivrait, quoi.
Oui,
c'est
pour
ça que...
Vous respectez, Yvette, vous respectez les lois de la République quand même.
C'est-à-dire que quand vous parlez des lois de la République, c'est-à-dire, par exemple, je ne vais pas voter. Non, je ne vais pas voter. J'ai déjà opté pour Dieu, parce que je récite la prière Notre Père qui dit que ton règne vienne. Donc si j'ai opté pour le règne de Dieu et que sa volonté soit faite sur la terre, j'obéis quand même, si vous voulez, je paye des impôts, je fais attention au code de la route, je fais les choses de la vie courante, ce qui est normal. Hein, je volerai pas mon prochain, par exemple. Mm-hmm. Je dealerai pas de la drogue pour le tuer. Je ferai plein de choses que la religion, et puis bon, mais en dehors pour la République, c'est sûr que j'obéis au règlement intérieur du pays, sauf quand il met ma religion après. Oui. Voilà, je voulais le dire bien fort, que les chrétiens aussi, on met Dieu à la première place par notre foi.
C'est-à-dire que quand les cultes, les lieux de culte étaient fermés, vous seriez allé malgré les interdictions ?
Non, parce que, pardon, excusez-moi de vous dire ça, je suis chrétienne mais pas catholique.
D'accord.
Donc, je peux dire les véritables chrétiens, ça fait un peu... Enfin, les chrétiens, ceux qui aiment vraiment Dieu, n'ont pas besoin d'un lieu pour le prier. Hein. On peut le prier comme d'un tapis ou d'un horaire. On peut prier Dieu n'importe quand. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre les... Donc, mais par contre, si le gouvernement dit que les lieux, j'obéis aux lois pour ne pas aller dans les études, ça ne me gêne pas, puisque je sais que je peux prier Dieu n'importe où. Pardon. Non, hein. C'est ça la différence. Hein.
D'accord.
C'est une grande différence. Est-ce que je peux revenir juste deux secondes, maintenant que j'ai dit ça, avec Elisabeth
Lévy, Elisabeth Lévy est avec vous, elle vous voilà. Écoute. Ouais.
Je vous écoute.
Ouais,
vous parliez des... C'est vous qui disiez que les jeunes étaient beaucoup... par la maladie, était beaucoup sur la touche, quoi. Il pouvait plus rien faire. C'est vous qui disiez ça, non, tout à l'heure,
Elisabeth? Ouais, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas avoir homme, parlé de cela aujourd'hui.
Non, non, c'est un homme, mais... pardon. Ouais. Et donc, voilà. Alors, moi, je dis que nous, les personnes... Moi, je suis âgée. Hein, j'ai plus de 68 ans. J'ai plus de 68 ans.
Oh, c'est jeune, c'est
ça
jeune.
Va, ça non, va, non, ça non, va. Non, j'arrive aux 70, je le dis franchement. J'ai... Ouais. Mais vous savez ce qu'ils me disent, certains jeunes?
Non.
Ils me disent, alors la vieille, écoutez bien, je suis chrétienne, hein, et je ne mentirai point. Hein, et ils disent comme ça, ils disent, ah, toi la vieille, on va travailler pour payer ta retraite, voilà. Et ils ajoutent maintenant, ben maintenant on est tranquille, ils vont vous vacciner pour vous faire crever, comme ça on va être tranquille. Beaucoup nous disent ça, parce qu'à chaque coup ils disent que c'est à cause des vieux qui n'ont pas de liberté. Voilà, c'est sympa. Et pour finir, Madame Lévy, je suis en train de dire, pensez comme vous pour les couleurs, bientôt on va nous dire qu'on n'a plus le droit de battre les blancs en neige, qu'on n'a plus le droit de séparer les jaunes des blancs dans les livres de cuisine. On va en arriver là. Un trait d'humour,
oui, quand même. Non, mais c'est vrai, il faut prendre ça un petit peu avec de l'humour, parce qu'après, oui. Bon, il y a des faits. Et donc, Elisabeth pointait les circonstances, quoi, tout à l'heure, évidemment, du match et de ce qui s'est passé. Et après, il y a beaucoup d'interprétations, mais c'est vrai que derrière, il y avait un problème, en fait, de fond qui était probablement un peu différent. Hein.
Vous voyez, là, c'est pas sur la couleur qu'on dit, ouais. Nous, les vieux, vous allez bientôt crever, ouais. Parce qu'on va vous faire un vaccin et on va être tranquille.
C'est sympa.
Là, c'est pas sur la couleur. On a l'air de dire qu'ils vont vous piquer en premier pour comme ça, on va se débarrasser. Il y en a même un qui m'a dit, comme ça résoudra le problème des retraites, on n'aura plus à payer de retraite.
Et vous, on prend plein
les dents. Hein.
Ouais, mais ça, c'est vrai. Yvette, vous allez vous faire vacciner ou pas?
Non.
Non?
Non, ça n'a rien à voir avec la foi, mais bon, c'est tellement peu sûr. C'est tellement peu sûr. Et depuis que j'ai une nièce qui a eu le vaccin de l'hépatite C et qui a attrapé la sclérose en plaques, j'ai peur des vaccins.
Oui.
Voilà. Bon. Ce sont les effets secondaires.
Ça comprend. Non, mais on comprend, et c'est pour ça d'ailleurs que ce que nous disait Jean Sibilia, qui était avec nous ce matin, c'est que évidemment il y a des effets indésirables pour tout vaccin, qui plus est sans avoir le recul total cette fois-ci dans cette histoire. Et puis il y a des personnes qui sont plus sensibles, quels qu'ils soient, hein, bien sûr, quoi. Elisabeth, sur le vaccin,
moi j'ai été tout de même assez frappée hier, et là je dois dire, nous avons une responsabilité collective, les médias, par le battage fait autour de deux cas en Angleterre, non pas de graves effets à ma connaissance, mais de réactions allergiques qui sont assez fréquentes, surtout chez des sujets allergiques. Et là, il y en a eu deux. Je ne sais pas combien de gens ont été vaccinés, mais si vous voulez, le battage qu'on a fait, si on veut dissuader les gens d'aller... Moi, j'ai vu les bandeaux hein, sur les chaînes télé, cas d'allergie, réaction allergique au vaccin. Bah, si vous voulez dissuader les gens d'aller se vacciner, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et il me semble que ça n'est pas très rigoureux, parce qu'il faudrait dire, il y en a deux sur combien de gens qui ont été vaccinés? Est-ce que ces réactions sont graves ou est-ce qu'elles sont courantes pour des vaccins? Là, je trouve quand même qu'on sort un peu du monde de la raison.
Le débat n'est pas serein, bien sûr, pour beaucoup, beaucoup de raisons, quoi, après tout ce qu'on a connu ces derniers mois, quoi, sans doute, Elisabeth. C'est lié probablement aussi à ça, quoi, non?
Non, mais vous avez raison, il y a une incertitude, si vous voulez, qui est liée au manque de recul, ça, nous le savons tous. Oui. Donc, peut-être, effectivement, la communication des laboratoires qui disent « mon vaccin est efficace à temps » est peut-être un peu triomphaliste, ça, on peut en discuter. Je dis juste que deux cas d'allergie ne sont pas en soi un événement significatif, et statistiquement, c'est pas un événement du tout.
Elisabeth, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que cette hyper-transparence de tout, au fur et à mesure, finalement, c'est pas contre-productif? Productif.
Bah oui, vous avez parfaitement raison, mais ça, personne ne le décide. En réalité, on est dans le monde de la médiatisation de tout, et vous avez raison, c'est du temps réel. C'est-à-dire qu'on commente en temps réel, hein, et on est tous amenés à le faire, ce qui est en train de se produire. Vous avez tout à fait raison, parce que vous voyez bien qu'en temps réel, on ne peut pas avoir nous-mêmes ni le temps de réfléchir, ni le recul, ni les éléments de contexte.
Je vous dis donc, ça parce que je vous coupe, voilà. Ce matin,
vous avez raison.
On a eu le président de d'une agence de tourisme ce matin qui disait que lorsque le président était positif à l'antenne, il avait des centaines de réservations pour partir et les gens étaient positifs.
C'est pas vrai.
Si, et que et c'était quasi immédiat. Et sur effectivement des propos d'Olivier Véran ou de Jean Castex qui étaient plutôt à refermer et à confiner, et ben il n'y avait pas de réservation. Donc le discours en tout cas du président et les discours publics fait que ça génère chez des gens du positif ou du négatif.
C'est très intéressant et c'est très effrayant.
Oui, c'est très effrayant. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il faut vraiment tout dire et parler de de façon instantanée?
En tous les cas, ça favorise une forme d'irrationalité, peut-être pas autant que les extraterrestres, néanmoins, dont j'ai aussi entendu parler.
Alors, il y a des appels, encore avant tout à l'heure aussi d'être avec François Saltiel. Hein. La société du sans-contact, vous allez voir, c'est assez édifiant sur le monde des GAFA.
Et on a un auditeur au 0826-300-300, c'est Régis qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Régis.
Bonjour Régis.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Cécile, Patrick et Elisabeth. Oui. Très content de passer à l'antenne.
Oui. On est ravis de vous avoir.
Tous les jours.
Oui.
Oui, juste une réflexion donc par rapport au match de hier. Mmh. J'étais content d'entendre ce matin Madame Lévy parce que je me suis fait cette remarque.
Oui.
Pourquoi noir en roumain c'est raciste et pourquoi en anglais c'est pas raciste?
Pourquoi un quoi? J'ai pas compris.
En anglais. Pourquoi en anglais c'est pas raciste? Pourquoi black?
Ah oui, 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 oui.
Voilà. Tout c'est ça.
Ou noir en français?
Voilà. Ou noir en français, ça doit être raciste, à mon avis. Mais bon. Mais monsieur Mbappé marque Black Lives Matter. Mais donc il est raciste, en fait. Je sais pas. C'est... Ça me rappelle le truc de Omar Sy, là. Qui est très marrant. Mais son sketch était raciste. Lui, il est noir. C'est absurde. C'est n'importe quoi. Voilà. Le soir même, je regardais M. Rostand sur l'équipe TV, mais il avait pris cet exemple. Il a dit si le match était au Cameroun, si c'était le seul blanc au milieu des noirs, il n'y aurait pas eu de fait. Voilà. Oui, les maladroits se.
Non, puis je pense que ce qui a choqué aussi en même temps certains, parce qu'il s'exprimait un peu en roumain avec ce mot négro, et là, pour le coup, c'est choquant, parce
négro,
que on peut
négro.
Dire que. Oui, c'est ça. Et donc, ils l'ont pris, en fait, comme une parole raciste et déplacée, parce qu'il y en a beaucoup en Italie et dans d'autres. Il y avait énormément, parfois, d'insultes sales nègres. Donc,
sûr,
ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Patrick, je peux vous poser une question?
Oui, allez-y.
Patrick, parce qu'en grand connaisseur du foot, je suis tout à fait attentive à ces choses racistes dans les stades, mais est-ce que il y en a souvent qui viennent d'arbitres? Je suis désolée, je ne connais pas assez le sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui disent des horreurs, mais est-ce que c'est souvent le cas des arbitres ou des officiels?
Oui, non, il y en a un peu. Il y a des mots parfois qui sont échangés comme ça. Je pense que c'est probablement aussi pour cela qu'il y a eu cette réaction, parce qu'il y a quand même toujours des noms d'oiseaux et des insultes sur les terrains parfois.
Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus personne dans les stades, forcément, on entend beaucoup plus les choses.
Alors en plus de
mais
ça.
Mais là, il n'y avait pas de racisme. Il y avait
non, mais voilà,
et ça s'arrête là. On doit appeler quelqu'un par son nom, d'accord. Ouais. Mais c'est pas du racisme. Il aurait été grand. C'est tout. Il n'y a rien de choquant.
Non, mais vous voyez, c'est l'interprétation qui a été faite et puis le mot.
Il faut arrêter de dire Black Lives Matter. Il faut arrêter de le dire. Ouais. Enfin, il faut arrêter de dire le mot noir et blanc. D'ailleurs, c'est L'Oréal qui bannissait le mot blanc. Voilà. Donc on arrête. Voilà, on arrête. On dit clair foncé, clair clair. Et clair peut-être blanc. Clair foncé.
Voilà, vous rentrez dans un truc.
On est rentré là-dedans. Moi, je caricature, mais.
Merci en tout cas. Merci pour votre témoignage. Merci Elisabeth Lévy, merci. Yvette aussi qui était avec nous et tous les auditeurs qui nous ont appelés 0826-300-300. On peut pas prendre en fait tout le monde immédiatement, évidemment vous avez la parole tout au long de la journée sur Sud Radio.
Dans un instant, vous bougez pas, on va revenir sur cette société du sans contact, c'est-à-dire le selfie. On n'a plus de contact humain. On en parlera avec François Saltiel. Le selfie d'un monde en chute. En attendant, on va vous offrir des cadeaux. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Et Magali qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Magali.
Bonjour Magali.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Moi, on aime bien ces voix enjouées,
ouais.
Dijois.
Il y a un petit accent derrière.
Mais, ouais, mais, bah mais non, même bah, ce, cette voix de se dire oh, j'ai gagné ce matin. Bah oui,
ouais,
vous avez gagné.
C'est top, oui.
Vous avez gagné des écouteurs sans fil Yamaha TWE3A. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas ça a l'air top. Tout le monde nous dit que c'est fantastique, c'est un super cadeau. On est contente de vous l'offrir. Vous allez l'offrir à qui? À vous ou à quelqu'un d'autre?
Alors je vais l'offrir à mon mari parce que moi je télétravaille, donc j'ai pas forcément trop besoin, mais lui il travaille sur site et tout, et je pense qu'il en aura plus d'utilité que moi. Mais,
ouais. Et vous faites quoi vous Magali?
Je suis agent administratif.
Ah. D'accord.
Et je travaille à 100% à la maison.
À 100% à la maison, depuis quand? Depuis le mois de mars hein?
Alors oui, depuis le mois de mars, on est rentré un mois.
Ouais.
Au mois début septembre parce que pour reprendre et finalement ben, début novembre ils nous ont renvoyé à la maison, mais nous on avait déjà le télétravail déployé donc
Et ça vous manque pas d'aller au bureau?
Ah si, si vous saviez.
Et c'est ben, vrai. Justement, vous savez quoi, on va en parler dans un instant justement,
oui,
ce lien social.
J'avais envie.
Bah non mais vous avez raison parce que vous avez besoin tout derrière un écran, c'est j'imagine c'est quand même un peu pénible quoi.
Ben en fait, comme je dis à mon mari, moi les seules personnes que je vois de la journée, c'est mon mari et mes enfants.
Ouais.
Donc,
oui.
Donc j'ai deux ados. Alors autant vous dire que quand ils rentrent,
ouais.
Au niveau communication, c'est pas encore trop ça.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça me manque de voir du monde.
Mais sinon, je vous propose un truc, Magali. On change, c'est-à-dire que vous allez vivre avec Patrick Roger et l'épouse de Patrick Roger va vivre avec votre mari. On fait ça tous les 15 jours.
Écoutez,
on tourne.
Il n'y a pas de souci.
Et puis, il faudra ensuite, en parler à votre mari et moi à mon épouse. Hein,
on passera
donc,
avec le mien et puis bon. Voilà, comme ça, voilà, ouais. on fera des liens sociaux.
Ah bah.
Laissez-moi réfléchir, je vais peut-être monter un site. Merci en tout cas Magali d'avoir joué avec nous. On est ravis de vous avoir donné un cadeau et bonne fête de fin d'année.
Oui, absolument.
On vous embrasse.
Et écoutez, parce que dans un instant, puisque vous dites justement que vous êtes bloqué derrière votre écran, que évidemment le télétravail, il y a des bons côtés, mais il y a aussi une bulle et qu'on est couper un peu de tout, bah, vous savez qu'on ira même peut-être plus loin. Il paraît que Facebook est en train de réfléchir à des lunettes connectées, que demain, on ne marchera même plus en regardant les gens dans la rue, mais en étendant, bah, on fera plus rien.
Voilà,
on ne fera plus rien. C'est assez terrible quand même ce monde. Quoi.
Mais on sera avec son mari.
Et on n'en est pas loin. François Saltiel avec nous pour son livre aux éditions Flammarion.
Hyper
selfie d'un monde en chute.
Voilà, c'est chez Flammarion. On en parle dans un instant, 9h19.